Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Aujourd'hui, je suis super content parce que c'est de nouveau un format interview. Et puis, j'aime bien parler seul face à la caméra et au micro, mais c'est encore plus passionnant quand il y a des gens qui me répondent en face. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une invitée de marque qui s'appelle Katie Deleris. C'est une personne que vous avez très probablement, si vous avez un téléphone et des réseaux sociaux, vous l'avez sûrement croisé. C'est en fait une diététicienne de formation qui est devenue tabacologue et donc spécialisée dans les addictions et plus précisément dans l'arrêt du tabac. Et puis ben, finalement, c'est aussi une créatrice de contenu en lien avec les addictions. Donc elle a un compte TikTok. La dernière fois que je suis allé le voir, je crois qu'il y avait plus de 212 000 abonnés. Sur Instagram, je ne sais même plus combien, mais bref, c'est quelqu'un qui est très présente et qui fait ben, beaucoup de bien dans le milieu de la santé, avec une approche qui est aussi ben, novatrice. Katie, déjà, merci énormément d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Et
Merci à toi
j'aimerais
de ton
que,
invitation.
avec plaisir, ça fait un petit moment qu'on en discute donc, et qu'on s'écrit par message et réseau interposé. Donc, ça me fait super plaisir. Pour commencer un peu ce podcast, je voulais te demander, voilà, j'ai présenté la facette professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur toi que peu de gens peut-être connaissent?
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur moi que peu de gens connaissent? Souvent, la question que on me demande, c'est est-ce que vous avez déjà fumé? Mais je peux le dire comme ça, voilà. Oui, j'ai déjà fumé, mais je n'étais pas une fumeuse, une grosse fumeuse dépendante. J'étais la petite fumeuse de soirée quand j'étais étudiante, voilà, qui taxait plutôt des clopes en soirée, etc. Mais voilà, c'est pas souvent. C'est pas parce que je n'ai pas été dépendante que je ne comprends pas les gens dépendants au tabac ou au cannabis ou autres substances.
C'est intéressant que ça soit une des questions. Et je pense que ça aide en effet beaucoup de gens à se dire, ah bah tiens, elle va me comprendre.
Oui.
Ce qui n'est pas forcément nécessaire parce qu'en tant qu'accompagnant, sinon ça voudrait dire qu'on devrait avoir goûté à toutes les substances, avoir tous les troubles psy possibles. Mais c'est vrai que c'est une croyance chez beaucoup de gens. Et comment tu as fait pour du coup. Enfin, est-ce que tu es toujours une fumeuse de soirée ou est-ce que tu as arrêté?
Non, j'ai arrêté. C'était vraiment c'était il y a longtemps, hein, quand j'étais en terminale et la première année de fac. Et puis, bon, après, les circonstances de la vie ont fait que j'ai un papa qui est décédé du cancer. Je me suis dit, mais c'est dissonant, c'est pas possible, je peux pas fumer et vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que c'était ces années-là. Et du coup, bah, comme j'étais pas dépendante, ça a été entre guillemets facile d'arrêter. Voilà.
Ok. Alors bon, ça c'est vite dit et c'est peut-être aussi abaisser un peu ta capacité à avoir dit non parce que des fois on se dit ah mais je suis pas dépendant donc pourquoi
Oui.
est-ce que j'arrêterais? Et puis c'est comme ça ben, finalement qu'on développe cette dépendance.
Tout à fait. Tout à fait.
Quand j'ai regardé ton profil LinkedIn avant ben, en préparant cette interview, j'ai découvert qu'en fait à la base tu avais fait des études de diététique. Comment tu es passé du monde de la diététique à celle des addictions?
Addiction. Un peu par hasard, donc j'ai exercé le métier de diététicienne pendant à peu près 10 ans et je commençais un peu à m'ennuyer dans ma profession parce que en fait j'ai fait ces études sans les avoir vraiment choisies. J'ai des parcours scolaires, j'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie et du coup bah, petit à petit j'ai été là. Et un jour, j'en discutais avec un médecin à l'hôpital où je travaillais et il me dit, mais pourquoi tu ne passes pas ton diplôme de tabacologue? Je te verrais bien là-dedans. Et je lui dis, mais c'est réservé aux médecins. Et il me dit, mais non, ça y est, maintenant, ils ont ouvert le diplôme aux paramédicaux. Donc, tu devrais y aller. Et puis, du coup, voilà, je me suis relancée. Je suis retournée à la fac faire ce DU de tabacologie et ça a été vraiment la révélation. J'ai adoré tous les cours, j'ai adoré les stages que j'ai faits. Et du coup, dès que j'ai eu ce diplôme, bah, j'ai trouvé du travail en tant que tabacologue. Et j'ai les complètement la diététique. C'est sûr que je le mets toujours sur mon profil LinkedIn, mais je me considère même plus diététicienne parce que depuis 10 ans, je fais de la tabacologie et de l'addictologie, donc je lis beaucoup de choses d'actualité sur le monde de l'addiction, mais plus du tout sur le monde de la diététique. Donc, je ne me sens plus du tout compétente en tant que diététicienne. Je suis une vieille diététicienne d'il y a 10 ans. Donc, depuis, la nutrition a fait beaucoup de progrès, comme en addiction. Donc, je le mets parce que, justement, souvent, les gens, quand on me dit tabacologue, ils ont l'impression de s'adresser à un médecin et je n'ai pas du tout envie d'avoir de fausser les personnes. Je ne suis pas médecin. Je suis diététicienne de formation et par contre, j'ai mon diplôme de tabacologie. Donc, on a le droit avec ce diplôme de s'appeler tabacologue. Derrière, j'ai fait aussi mon diplôme, mon DU d'addictologie. Mais je sais que certains médecins n'aiment pas qu'on utilise le terme addictologue. Pourquoi on pourrait dire un médecin addictologue, infirmière addictologue, mais bon, bah, du coup, je m'ai spécialisée en addiction, comme ça, je froisse aucune personne et tout va bien. Mais voilà, du coup, j'ai fait ce DU de tabacologie et ce DU d'addictologie.
Ok. Oui, alors la question des titres, c'est toujours très épineux dans le milieu de la santé.
Oui.
Mais je trouve super parce que finalement, je crois que c'est le point commun entre tous les invités que j'ai eus sur ce podcast, c'est des gens qui ont des parcours multiples. Et je trouve top de montrer aussi aux gens que voilà, on peut aller dans une voie, avoir des compétences, bifurquer, puis trouver aussi plusieurs centres d'intérêt différents. Je voulais te poser, l'idée c'est qu'on parle d'addiction plus principalement au tabac, mais on peut élargir aussi la chose. C'est un thème que je n'ai pas encore abordé sur le podcast. Comment expliquer que certaines personnes, particulièrement avec la cigarette, deviennent accros au tabac, alors que d'autres, eh bien, peut-être comme toi tu l'as fait, peuvent consommer ça de manière récréative sans développer une addiction?
Alors, dans le tabac, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle 3 dépendances. Ce n'est pas une dépendance. Il y a la dépendance physique, le besoin de nicotine, et ça, elle est propre à chacun. Et il y a des facteurs génétiques au niveau des capteurs, quoi, des récepteurs à la nicotine. On n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont être très dépendants à la nicotine et d'autres non. Alors, après, attention, parce que quand on commence tous à fumer, je connais personne. Alors, certains me disent oui, mais je pense que parfois, ça doit être faussé, ce souvenir. Mais généralement, la toute première cigarette, personne ne se dit « Waouh, elle est trop bonne, je vais en reprendre une deuxième ». C'est plutôt le contexte. On est c'est la transgression, soit c'est parce qu'on veut faire bien devant les copains, etc. Et il en faut plusieurs pour devenir… On devient rapidement indépendant physiquement. Donc, je pense qu'effectivement, si on est déjà, on a la génétique et qu'en plus, on est dans un milieu où on va avoir des cigarettes qui vont se consommer assez rapidement, on va devenir très vite dépendant, effectivement. Mmh. Après, il y a la dépendance comportementale, c'est les habitudes. Je suis en soirée, je fume, je bois un café, je fume. C'est tous les comportements qu'on peut avoir avec sa cigarette. Et généralement, en fait, au départ, c'est ça qui va s'installer. C'est tiens, je suis en soirée, je vais prendre une cigarette. Mais moi, du coup, à la maison, quand j'étais jeune, surtout, je n'aurais pas allumé une cigarette. Mon papa était malade, donc j'avais déjà très peur de me faire engueuler. Mmh. Et puis, j'étais avec des copains qui n'étaient pas forcément fumeurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de rare. Et je pense que peut-être j'aurais été dans un milieu où il y aurait eu plus de tabac. Peut-être que je serais devenue plus dépendante, je ne peux pas le dire.
Mmh. Donc, en termes de facteurs de risque, alors, tu cites la génétique, l'environnement social. En effet, je pense que c'est quelque chose qui est social, au niveau des... Ouais, aussi même d'un métier, certains métiers. Alors, moi, j'ai bossé au début de ma carrière plutôt dans les addictions, mais pas mal à l'alcool. Il y avait des métiers, typiquement des cuisiniers, où on sait que c'est des métiers qui sont plus à risque parce que ben, y a de l'accès à l'alcool facile, c'est des horaires compliqués et puis ça fait partie un peu de la culture de boire un coup, soit pendant le service, soit après. Et donc, c'est des métiers qui nous mettent plus à risque. Est-ce que tu as d'autres facteurs de risque en tête par rapport au tabac, par exemple ?
Alors, je reprends un peu ce schéma parce que et c'est valable d'ailleurs pour toutes les addictions. Comment on devient tous les facteurs de risque ? Il y a l'individu en lui-même. Donc, l'individu, il va y avoir sa génétique, mais il peut y avoir aussi, par exemple, quelqu'un qui a une bonne estime de lui. Mmh. Eh bien, il a moins de risques de tomber dans les addictions parce que ça va être, il aura confiance en lui, il va savoir dire non. Quelqu'un qui n'a pas une bonne estime, il veut se plier au groupe, il veut faire comme tout le monde, il veut pas faire de vagues. Eh bien, du coup, voilà. Donc, il y a aussi tout ce que l'on appelle gestion du stress, estime de soi, toutes les, ce que j'appelle moi les compétences psychosociales, et c'est ce que je travaille d'ailleurs avec mes patients. Donc, okay. Fais attention à ça parce que on sait que c'est un facteur de risque sur les ou protecteur. Hein. Si on a une bonne estime de soi, c'est protecteur. Mmh. Et voilà. Donc ça, il y a l'individu en lui-même, la génétique et ce qui le construit effectivement, estime de soi, gestion du stress, des émotions. Il y a le produit en lui-même. On sait que la nicotine, c'est une des substances les plus addictives. Pareil pour par exemple l'héroïne. On sait que l'alcool, ça l'est un peu moins parce que mais je ne dis pas que on est parce que l'alcoolodépendance, c'est un vrai souci. Mais c'est beaucoup moins addictif, l'alcool, que la nicotine, par exemple. Donc, il y a le produit en lui-même. Et après, il y a l'environnement, effectivement. L'environnement, les pères qui vont être à côté de nous, hein, notre environnement social. Il peut y avoir aussi dans l'environnement, il peut y avoir l'environnement aussi... on sait très bien que si on est dans un environnement très stressant ou des choses, ça peut jouer là-dessus. Donc, je pense que c'est la globalité qu'il faut regarder. Mmh. Donc, bon, là, le produit, ça serait la cigarette. Mais du coup, il y a l'individu en lui-même et l'environnement dans tous les sens du terme.
Mmh. Je trouve super intéressant que tu abordes le côté estime de soi. Alors, souvent, tu me tagues sur tes vidéos quand ça parle de gestion du stress. Donc, déjà, merci pour... De partager ça, mais le côté estime de soi, en effet, je trouve hyper bien que tu en parles parce que ça amène à arriver à s'affirmer ou versus se plier voilà, à la pression du groupe. C'est pas pour rien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à l'adolescence à fumer parce que là, c'est l'environnement social. S'il y a beaucoup de gens qui fument, qu'on a un peu de la peine à s'affirmer, en effet, on est plus à risque. Puis, alors, je me demandais, par rapport à l'environnement plus sociétal, en quelques décennies, on est passé de la cigarette, il n'y a pas plus cool, tout le monde fume partout, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les films. Enfin, moi, je me rappelle des pubs Marlboro avec les cow-boys. Donc, c'était vraiment... Moi, ma mère a travaillé chez Marlboro, chez Philip Morris quand elle était plus jeune. Donc, j'ai des photos de moi quand on était gamin. On avait tout, les cahouets, les casquettes, tout était Marlboro. Et puis maintenant, il y a eu quand même énormément de choses qui ont été faites par rapport à la pub, plus le droit de fumer dans les établissements publics, etc. Est-ce que tu as des chiffres ? Alors, je ne te demande pas les chiffres précis, mais est-ce que tu as une idée de l'impact que ces changements sociétaux ont eu sur la consommation de cigarettes ?
Alors oui, le taux de fumeurs a quand même vraiment diminué. On sait que là, on est autour... Alors, j'ai pas les chiffres en Suisse, je suis désolée. J'ai les chiffres français. À l'heure actuelle, on a 25% de fumeurs. Je sais plus, je t'avoue, je sais plus, mais à un moment donné, on était à 35, je sais plus en quelle année, donc ça a bien diminué. Par contre, effectivement, ce qu'on observe sur ces derniers temps, c'est que ça recommence à stagner un petit peu. Ça avait bien diminué, ça stagne. Et notamment, voire ça peut même un tout petit peu réaugmenter chez les catégories socio-professionnelles basses. Alors qu'on pourrait se dire, pourtant, le paquet de cigarettes devient de plus en plus cher. Et bien, eux, on n'arrive pas à les faire arrêter de fumer. Donc, on voit qu'on a atteint une sorte de plafond de verre parce que, justement, ces personnes-là ont beaucoup de stress. Vu qu'ils ont souvent des problèmes d'argent, ils vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc là, on est en train de réfléchir justement comment on peut faire pour toucher ces personnes. Donc en France, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Par exemple, maintenant, les substituts nicotiniques sont complètement remboursés par l'assurance maladie. Okay. Moi, quand j'ai commencé à exercer la tabacologie, au départ, il n'y avait que 50 euros remboursés par an. Puis après, ça a été 150 euros remboursés par an. Et maintenant, en fait, il n'y a plus de limite. Donc, on peut, voilà, on a le temps de bien mettre en place le sevrage. On n'est plus à dire vite, vite, il faut changer le patch parce que sinon, on n'aura plus assez d'argent chez l'assurance maladie. Là, c'est... Donc, il y a des choses qui sont mises en place, mais je pense que, effectivement, ce qu'on disait, c'est très important d'apprendre à gérer son stress, à gérer ses émotions. Et là, on a un axe à travailler, pas que chez les gens justement qui sont déjà dépendants, c'est, je pense que c'est des choses qui commencent dès le plus jeune âge pour faire de la prévention. Et il y a des programmes tests, en ce moment, par exemple, au collège, il y a ce qu'on appelle le programme Unplug, avec justement tout ce qui est compétences psychosociales pour les faire travailler au collège, affirmation de soi, savoir dire non, estime de soi, parce qu'on se dit que sans même aborder les addictions, on sait qu'on fait de la prévention des addictions en faisant ça. Donc on est en train de mettre en place ces choses-là, mais on verra, parce que ça, il faut du recul pour savoir si ça a été suffisamment efficace. Puis, il faut le mettre. Pour l'instant, il y a quelques établissements, mais ce n'est pas fait partout.
Mmh. Alors, oui, on fait de la prévention par rapport aux addictions, mais par rapport à tellement d'autres choses. Moi, plus j'avance, plus je vois que l'estime de soi et l'affirmation de soi, c'est des compétences clés. Donc, c'est top s'il y a des choses qui se mettent en place. Je trouve intéressant que tu pointes du doigt le fait que chez les classes sociales plus défavorisés, ben, ça ne descend pas. Puis ça, je pense que c'est important de le relever parce que ben, y a cette politique de voilà, on monte le prix du paquet, mais finalement, ben, ça a ses limites aussi. Puis ça aggrave encore finalement les gens qui ont déjà peu d'argent et puis qui n'arrivent pas à se défaire de ce genre d'addiction pour d'autres raisons. Donc je trouve intéressant que tu le remarques. Et c'est là aussi, ben, je pense qu'on peut saluer ton travail. D'ailleurs, j'ai trouvé hyper cool parce que j'avais vu que tu as reçu une récompense étatique, je crois, par rapport au travail que tu fais sur les réseaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle reconnaissance parce que le fait de créer du contenu comme ça, de prendre du temps pour ça, ben, ça démocratise aussi la chose. Puis ça donne accès à des personnes qui n'auraient pas forcément le pouvoir d'achat ou la disponibilité d'aller en consultation, de mettre des choses en place pour l'arrêt du tabac, ben d'avoir des conseils comme ça directement sur leur téléphone, puis d'avancer dans la réflexion.
Donc, ah oui.
Je voulais te remercier déjà et te féliciter pour ça. Merci. Si on va très spécifiquement dans l'arrêt du tabac, c'est quoi un peu les étapes au travers desquelles tu fais passer les gens que tu accompagnes?
Alors, alors j'ai plusieurs lieux où je travaille, c'est-à-dire que quand par exemple je suis en consultation de tabacologie, les gens viennent me voir, ils ont déjà l'envie d'arrêter de fumer, donc on va dire que l'entretien motivationnel, je n'ai pas trop à le faire, je vais juste mettre en avant leurs raisons de pourquoi ils ont envie d'arrêter de fumer, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, etc., mais je ne rame pas à essayer de faire la balance, les pour, les contre, etc. Donc, du coup, je vais aller très vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vais déjà justement faire un état des lieux de leur dépendance physique. Pour ça, il y a le petit questionnaire qui s'appelle Fagerström, où il y a 6 questions et ça nous donne une évaluation sur la dépendance physique en fonction de ça. Je vois s'il y a nécessité ou non de mettre en place une substitution nicotinique ou pourquoi pas une vape avec de la nicotine. Hein. C'est au patient de savoir ce qu'il a envie, on en discute. Une fois que j'ai posé ça, et ça c'est très important, je leur explique, parce que souvent des fois les gens me disent « oui, mais moi j'ai déjà essayé les patchs, ça ne marche pas, je fumais avec ». Et je leur dis « oui, c'est normal ». Là, on a fait la dépendance physique. Mais on n'a pas fait la dépendance comportementale, vos habitudes, et ni la dépendance psychologique, le fait de gérer vos émotions avec la cigarette. Donc, vous avez beau avoir le patch, après le repas, vous aurez quand même envie de fumer. C'est normal. Fin de repas égale cigarette. Et puis, quand vous allez avoir un gros stress, même si vous avez votre patch, vous allez quand même avoir envie de fumer, vu que votre réflexe, c'est de vous dire « je vais me calmer avec une cigarette ». Donc, ça, il va falloir le travailler. Et ça, ça se travaille au fur et à mesure que je les vois en consultation, parce qu'on ne peut pas tout faire en une consultation. Donc, je vais leur donner quelques petites armes en leur expliquant au départ qu'est-ce que c'est le comportement. Mais ça veut dire que voilà, à chaque fois que vous aurez envie de fumer, il va falloir repérer à quel moment c'est et qu'est-ce que vous pouvez faire à la place. Donc, par exemple, à la fin du repas, vous aviez l'habitude de fumer. Ben maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous allez pouvoir aller vous laver les dents? Est-ce que vous allez pouvoir prendre un chewing-gum? Est-ce que vous allez aller faire une petite marche? Voilà, peu importe, mais il va falloir qu'on décide du nouveau comportement qu'on va mettre en place. Et après, il va falloir apprendre à gérer ses émotions, parce que sans ça, ce n'est pas possible. Gestion des émotions, gestion du stress. Donc, quand vous êtes énervé, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que pour vous calmer, il n'y aura plus la cigarette. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place sur du long terme. Du jour au lendemain, il ne va pas falloir attendre qu'il soit énervé pour dire « Ah bah tiens, elle m'a dit quoi? Je vais faire de la cohérence cardiaque. » Non, ça ne va pas marcher. Il va falloir s'entraîner tous les jours. Mmh. Comme au départ, vous êtes forcé à fumer. Je leur dis, vous faisiez après les repas, vous n'aviez pas forcément envie de fumer, mais vu que tous les copains faisaient la cigarette, etc., ben là, tous les matins, vous allez me faire un exercice de respiration. Et c'est vrai que je prescris des tâches. Je leur dis, moi, vous allez devoir faire ça, vous allez devoir faire ça. Et ça, c'est très important, c'est que je leur dis, moi, je vais vous donner des choses. Si vous ne les faites pas, ben en fait, ça ne sert à rien de revenir me voir parce que, en fait, on ne va pas pouvoir avancer. Donc, c'est comme un contrat, c'est-à-dire que vous voulez que je vous aide, ok, moi, je vais vous donner tout ce que je sais, mais si vous ne les mettez pas en place, ça ne va pas fonctionner. Il ne faudra pas dire que, en fait, c'est que vous n'avez pas de volonté. Non, c'est parce que vous n'avez pas eu… parce que c'est vrai qu'au départ, ça demande de l'énergie de se dire, tiens, le matin, il faut que je prenne du temps. Mais du coup, il faut mettre ces choses en place, sinon c'est voué à l'échec. Le patch, il agit pas sur tout.
Je trouve intéressant comme tu en parles, parce que moi, je suis confronté souvent à ça, du fait que je fasse de l'hypnose. Il y a ce côté, l'hypnose, c'est un coup de baguette magique, ça fait arrêter la cigarette. Et ben, je fais exactement comme toi. Alors moi, je fais ça de manière plus courte, généralement comme accompagnement, mais je dis toujours, les gens, ils arrivent à la première séance, on va arrêter, on va faire de l'hypnose. Puis je leur dis non, vous venez, on va discuter justement des habitudes, qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Et puis, pareil, je leur donne des prescriptions. Je leur dis, vous testez vos stratégies que vous avez formulées, vous regardez, puis vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'ici la prochaine fois. Vous faites la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, des choses comme ça. Et puis, à la deuxième séance, je sais tout de suite si la personne, elle va arrêter ou pas. Parce que la deuxième séance, généralement, je fais de l'hypnose. Alors, soit dès la première séance, je sais que la personne ne va pas arrêter parce qu'elle ne cherche même pas des stratégies alternatives. Elle me dit juste, j'ai envie d'arrêter. Alors que, comme tu l'as précisé, une habitude, elle se remplace, elle ne s'annule pas. Et puis, après, des fois, ils arrivent en deuxième séance, puis, j'ai pas eu le temps, ou ils n'ont pas testé. Alors là, je sais qu'en fait, ils sont partis pour juste continuer. Mais je trouve intéressant parce que c'est important de rappeler que ce n'est pas évident, mais que ça demande aussi beaucoup de motivation et que ça demande un travail et que ce n'est pas juste, on ne se défait pas de ça en un claquement de doigts.
Ça, c'est hyper important et je le dis parce que souvent, les gens me disent « c'est quoi votre méthode ?» Et en fait, il n'y a pas de méthode. C'est tel que je vais vous donner des outils, mais quelqu'un qui va vous dire je vais vous faire arrêter en une séance, je fais alors ça marche chez certaines personnes et tant mieux, mais c'est tellement justement au niveau des chiffres, c'est tellement rare qu'il ne faut vraiment pas se dire ça va être d'un coup de baguette magique. Non, ça demande effectivement un gros investissement. Mais comme ça leur a demandé, et souvent ils ont oublié de fumer au départ, c'était pas une. Ils se sont forcés à fumer au départ. Eh bien là, il va falloir se forcer, comme tu dis, à faire de la cohérence cardiaque, faire de l'activité physique s'il y a besoin, quoi. Il faut trouver, comme tu dis, les alternatives à ces comportements.
C'est quoi celle qui ressort le plus souvent ou que tu vois que ça aide le plus les gens comme stratégie, comme ça?
Ça dépend des moments, mais effectivement, moi je travaille beaucoup sur les exercices de respiration. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça, qui me disent ah, mais moi j'arrive pas, etc. Et bien là, du coup, je vais travailler plutôt sur justement l'activité physique ou sportive. Je leur dis allez marcher parce que ça va vous faire du bien, si, ou allez courir, taper dans un sac de boxe, peu importe ce que vous choisissez. Donc l'activité physique ou sportive, la respiration. Les activités créatives aussi, ça marche bien. Il y a des personnes qui aiment colorier les mandalas, les choses. Tout ce qui amène à la création, c'est aussi intéressant.
Et souvent, c'est des stratégies qui doivent pas forcément durer longtemps, mais qui doivent juste nous permettre de passer ce moment de craving, de vraiment d'envie intense, qui dure dans les 5 minutes en général.
Oui. Une envie de fumer, c'est 3 à 5 minutes où c'est très fort et très intense, puis après ça redescend. Il faut apprendre à surfer un peu sur cette vague. Alors, et d'où l'importance d'avoir fait avant ce fameux test de Fagerström, parce que si on n'est pas correctement substitué, elle ne va pas descendre, cette vague. Et elle va rester là, et c'est là où on s'épuise un peu comme le stress, hein, au départ. On sait que le stress, au départ, ça a une vertu un peu positive, hein, ça nous permet de nous mobiliser. Et en fait, c'est si on ne voilà, ça s'accumule, c'est là où on rentre en phase d'alarme et hop, on s'écroule. Mais l'envie de fumer, si on n'a pas bien géré au départ son manque de nicotine, elle va pas descendre. Et donc, c'est important d'être correctement substitué. Après, il y a des personnes qui n'ont pas besoin. Et là, effectivement, on est vraiment sur ce 3 à 5 minutes. Et passé les 5 minutes, on n'a plus, ça y est, c'est redescendu, on pense à d'autres choses. Et ça va revenir, mais au moins on aura passé ce pic.
Et par rapport à la respiration, c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas forcément à l'aise avec ça, mais moi je leur rappelle toujours qu'en fait la meilleure respiration, c'est celle qu'ils ont quand ils fument, parce que finalement, ils inspirent, ils bloquent un petit peu, puis ensuite ils expirent pendant longtemps la fumée. Et
C'est
finalement,
ça.
c'est la respiration qui va le plus calmer, c'est plus on expire longtemps, plus ça nous calme. Donc moi je les encourage en fait à prendre des pauses clopes. Sans cigarette, mais d'aller simplement faire ses respirations comme s'ils en fumaient une.
Tout à fait. Mais oui, et même parfois chez certains, je leur dis, mais s'il faut, même prenez une paille si vous avez besoin et faites le geste, vous inspirez dans cette paille et vous, voilà, comme vous faisiez quand vous étiez un fumeur ou une fumeuse, vous allez voir qu'en fait, vous respirez justement. Vous alliez faire ces exercices de respiration. Sauf que je leur dis, vous respiriez avec justement comme un pot d'échappement, quoi. Vous mettiez des mauvais gaz dans vos poumons. Là, vous allez prendre l'air ambiant et ça sera bien plus sain.
On a évoqué ta formation de diététicienne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la nutrition qui aident par rapport à l'arrêt du tabac?
Oui, il faut savoir que la plus grande peur et à l'arrêt du tabac, c'est la prise de poids. Il y a plein de personnes qui ne se lancent pas dans l'arrêt du tabac par crainte de prendre du poids. Bien là, il y a quelques petits trucs qui peuvent faire justement limiter. Je ne peux pas dire, je vous garantis à 100% que vous n'allez pas prendre de poids, ce serait faire de la publicité mensongère. Mais on peut essayer de limiter au maximum. Pour ça, c'est déjà les substituts nicotiniques, justement. On sait que les patients qui sont substitués prennent moins de poids que les autres. On le voit dans les chiffres. Donc, ceux qui ont peur de prendre du poids, il faut qu'ils soient substitués. Et en plus d'être substitués, on aura moins faim, parce que c'est le manque de nicotine qui donne faim. Donc, on aura moins envie de grignoter tout et n'importe quoi. Donc, être correctement substitué. Et après, c'est mettre en place de l'activité physique ou sportive. Pourquoi? Parce que les cigarettes faisaient brûler des calories quand on était fumeur. Parce que, par exemple, quand on inhale la fumée, on va inhaler du monoxyde de carbone à la place de l'oxygène. Donc, on a moins d'oxygène dans nos poumons. Donc, qu'est-ce que fait le cœur? Il va battre un petit peu plus vite pour faire circuler le peu d'oxygène. Donc, notre cœur qui bat un peu plus vite brûle un peu plus de calories. En moyenne, on considère qu'un paquet de cigarettes fumées, c'est 200 calories de brûlé. Donc, il est important, à l'arrêt du tabac, de mettre en place de l'activité physique pour compenser ces calories. Donc, de la marche, du vélo, peu importe, hein, de la natation, il faut choisir quelque chose qu'on sera capable d'inscrire dans le temps. On prend des nouvelles habitudes. Mmh. C'est pas je vais me mettre à courir 3 fois par semaine, alors que je déteste faire la course, je vais faire ça pendant 6 mois, puis après je vais arrêter. Non, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire au moins sur 1 an. Est-ce que dans 1 an, je me projette encore faire ça ? Été comme hiver. Mmh. Voilà, donc l'activité physique, les substituts nicotiniques, et puis après, ça va être juste manger équilibré, justement. On va essayer de faire attention à son alimentation, on va essayer de ne pas être dans l'excès, mais attention, ça ne veut pas dire être au régime. On ne peut pas arrêter de fumer et être au régime, ça ferait trop de privation. Donc, c'est justement, moi je dis, on fait de la diététique positive, on va ajouter des choses au lieu de retirer. On va ajouter des crudités, parce que si vous avez faim, bah mettez une entrée de crudités ou une soupe en entrée, déjà ça va vous remplir l'estomac, puis après vous mangerez votre plat comme vous avez l'habitude de faire. On peut ajouter des fruits si vous n'aviez pas l'habitude d'en manger. Donc en fait, on ne retire rien, ça c'est important, mais on ajoute des choses positives pour notre alimentation. Mmh. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais ajouter qui soit bon en vitamines et en minéraux, qui me permettent de me caler en plus de ce que j'ai l'habitude de manger. Et ça, voilà, substitution, activité physique, diététique positive, eh bien, on limitera la prise de poids en faisant ça.
Et c'est très important le côté éviter d'avoir cette idée de je perds, j'enlève quelque chose, parce que ben, on n'aime pas perdre, on n'aime pas avoir perdu quelque chose. Donc, plus on va avoir ce sentiment que ben, j'ai gagné en activité physique, j'ai gagné en temps, peut-être parce que je ne suis pas tout le temps à la pause clope, j'ai gagné en vitalité, etc. Plus psychologiquement, ça va être aussi facile finalement d'accepter que ben, on a tourné une page.
Mmh, tout à fait.
Il y a toute une gamme de produits qui sont là quand même depuis un moment, mais qui se démocratisent, j'ai l'impression, notamment la snus, donc les paquets qu'on met sous la gencive, les puffs qui arrivent là, qui sont, enfin moi je vois beaucoup de gens commencer à fumer ces choses-là, qui sont pour le coup une catastrophe écologique en plus, parce que au lieu de fumer, de jeter du papier, c'est des trucs en plastique. Ça c'est un autre débat. Est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que tu constates par rapport à ces produits-là ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent déjà consulter pour arrêter ça, ou est-ce que c'est complètement banalisé, puis c'est une menace
Alors, pour le snus, alors, ça va être la différence avec vous en Suisse et nous en France, c'est que nous en France, c'est interdit à la vente. C'est illégal. Hein. Donc, déjà, on a du coup certainement moins de consommateurs que vous en avez, mais on en a. Pourquoi ? Parce que c'est très à la mode chez les sportifs.
Ouais.
Mais parce qu'il n'y a pas de combustion, donc forcément, c'est mieux pour les poumons. Mais on sait que ça crée des déchaussements des dents, on sait que ça peut créer aussi peut-être des cancers au niveau ORL, au niveau du pancréas. Donc, ce n'est vraiment pas une alternative de se dire « Tiens, je vais passer au snus, c'est à moindre risque. » Oui, moins pour ses poumons, mais il y a plein d'autres risques. Si on veut vraiment moins de risques, on arrête de consommer des produits du tabac. Donc, j'ai quelques patients qui viennent parce qu'effectivement, ils consomment du snus et ils n'arrivent pas à arrêter d'en consommer. Donc, bien sûr qu'on les aide. Mais ça va être plutôt dans le domaine sportif, moi, dans mes patients. Les puffs, c'est vraiment, effectivement, c'est nous, les collégiens. Donc, on va dire... Il commence vers 12 ans, entre 12 et 15 ans. La cible, c'est ça. Hein. Donc, on se pose plein de questions parce que, en fait, on les initie à un produit où il y a de la nicotine. Donc, ils deviennent dépendants à la nicotine. Donc, on est en train d'enfermer ces jeunes dans un piège de dépendance. Est-ce qu'on bascule de la puff au tabac derrière? On est incapable de le dire à l'heure actuelle. Pour l'instant, les études, on n'a pas assez de recul pour dire est-ce qu'un jeune qui va consommer des puffs va obligatoirement fumer des cigarettes? Rien ne l'affirme, rien ne l'infirme. On ne peut pas... Voilà. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on les condamne à être dépendants à quelque chose. Alors, il y a des petits malins qui me disent « Oui, mais moi, je la prends sans nicotine, ma puff. » Mais en fait, tous les fumeurs le disent que, justement, c'est ce qu'on disait, le geste, la gestion des émotions par cette puff, elle va être beaucoup plus difficile que la dépendance physique où on disait ben, « On colle un patch, c'est un tiers du problème, mais après, il y a ce gros travail à faire, etc. » Donc, en fait, même quand ils ne mettent pas de nicotine, ils sont en train de s'enfermer dans un piège de dépendance comportementale. Donc, c'est quand même, voilà, au niveau de la dépendance, quelque chose qu'il faut, je pense, éviter. Et puis après, comme tu le dis, c'est un scandale écologique. Je veux dire, on est en train de lutter contre le plastique et on se dit, tiens, ben non, on a mis sur le marché quelque chose qui tient du plastique avec une batterie en lithium, donc... c'est-à-dire que ce ne sont pas des ressources justement inépuisables. On est en train de puiser nos réserves de lithium pour faire des choses qu'on jette. Au bout de 300, 600 bouffées, on jette. Est-ce que, voilà, on sait que notre planète, à partir de je ne sais plus quelle date, on a déjà des fois tout utilisé, notre capital qu'on avait pour un an, des fois on est au mois de, je crois, juillet, bah, ça y est, c'est fini.
Ouais.
Et on se rajoute ça, c'est pas possible. Je pense qu'il faut se dire que, oui, peut-être qu'on est, parce qu'il y a des gens qui nous disent, oui, mais du coup, ces jeunes-là vont pas fumer, vu qu'ils prennent ça. Est-ce qu'on peut essayer de trouver d'autres alternatives qui soient pas nocives pour la planète et pour les jeunes, en fait?
C'est ça. Ouais, puis alors pour casser encore peut-être un peu plus l'ambiance, les batteries et toutes ces choses-là viennent aussi de pays, notamment en Afrique, sont issues de conditions de travail, d'enfants, d'exploitation, tout ça. Donc voilà, pour histoire de bien casser l'ambiance, pour les gens qui nous écoutent, qui prennent leur puff à ce moment-là, imaginez ce qu'il y a derrière ça, en fait, comme souffrance et comme problématique. Peut-être qu'au niveau éthique, ça peut aider à faire le pas.
Ouais.
Mais c'est intéressant après... ce côté snus par rapport aux sportifs. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis sportifs qui en prenaient. Et même pendant les matchs, quoi.
Oui, parce qu'en fait, comme la nicotine, c'est un stimulant, ça accélère un petit peu le rythme cardiaque, ça permet d'être un peu plus alerte. Un peu comme quand on prend un café, ça nous réveille, ça nous stimule. Bon, ben, la nicotine, ça a un pouvoir stimulant. Donc, c'est le sportif, il va le sentir, ces choses-là. Mais voilà, à quel moment on se dit justement, ils ont besoin d'un corps en pleine santé, en pleine forme. Voilà, ne pas se gagner quelque chose pour perdre d'un côté, c'est pas, les calculs sont pas bons.
Je t'ai coupé avant, tu voulais encore ajouter un point, je crois.
Oui, juste un point, parce que du coup, souvent les fumeurs me disent « Mais moi, si j'utilise une puff ?» Alors, je leur dis « Oui, alors pour le coup, si tu es fumeur et que tu passes à la puff, c'est bien moins dangereux pour toi. Mais la solution qui serait justement mieux, c'est de passer sur une vraie cigarette électronique que tu vas garder, que tu vas entretenir. On ne va pas justement jeter au bout de 600 bouffées. Tu vas investir dans un matériel. Et puis après, effectivement, le but, ce n'est pas de garder sa cigarette électronique toute sa vie. C'est aussi après de faire ce sevrage de cigarette électronique. Donc, quand je dis la puff, j'aime pas du tout. Oui, j'aime pas du tout écologiquement. J'aime pas du tout quand c'est les jeunes qui s'initient à ce produit-là. Si c'est un fumeur, je vais avoir un discours un peu plus modéré, mais en essayant d'aiguiller plutôt sur quelque chose de plus durable, comme la cigarette électronique.
Katie, je vois que l'heure tourne et je t'ai promis de te libérer à l'heure. Déjà, un énorme merci pour ce que tu as apporté durant ce podcast. J'espère que ça amènera une réflexion ou des astuces ou une motivation à des gens qui vont l'écouter. Je mettrai toutes les infos te concernant dans les notes du podcast. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, te contacter éventuellement, parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui m'écoutent depuis la France. Donc, je mettrai toutes ces infos. Et puis, j'ai un peu une petite tradition que je ne respecte pas toujours, mais aujourd'hui, j'y pense. C'est de terminer ce podcast en te demandant qu'est-ce que je peux te souhaiter personnellement pour la suite.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, je trouve que j'ai une vie plutôt épanouissante et remplie. Je dirais que tu peux me souhaiter que ça continue comme ça pour moi, justement, c'est plutôt positif.
Magnifique. Voilà. Alors, je te souhaite que ça. Puis, merci beaucoup à nouveau pour tout le travail que tu fais. Merci pour les partages que tu as fait, parce que je reçois tout le temps des notifications de toi et je trouve ça top de travailler entre guillemets en réseau sur les réseaux. Donc, merci pour ça. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite et puis au plaisir d'échanger à nouveau.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous en aurez retiré plein d'astuces, de conseils et puis d'inspiration par rapport à votre consommation de tabac. Comme d'habitude, laissez vos commentaires, vos évaluations, soit dans les commentaires, soit sur les plateformes de podcast. Et puis, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.